La Voix des Livres, votre émission de lecture,
présentée par Jocide,
sur Radio U.
Ernest Hemingway, le vieil homme et la mer. Il avait choisi de rester dans les eaux profondes, dans le noir, loin des hameçons, loin des traîtres. Et puis voilà que moi, j'ai choisi d'aller le chercher tout là-bas, dans le fond, plus loin que tous les poissons du monde. Maintenant, lui et moi, on est unis. Depuis le milieu du jour, on est accrochés ensemble. Et personne ne peut nous aider, ni lui, ni moi. Peut-être que j'aurais mieux fait de ne pas devenir pêcheur, songea-t-il. Mais qu'est-ce que j'aurais bien pu faire d'autre? Faut surtout pas que j'oublie de manger le petit thon dès qu'il fera jour. À l'aube, quelque chose mordit à l'un des appâts qui se trouvait derrière lui. La badine verte se rompit et la ligne commença à filer. Dans l'obscurité, le vieux tira son couteau de la gaine et, faisant porter toute la pesée du poisson sur son épaule gauche, se pencha. Il coupa la ligne en danger contre le bois du plat-bord, il sectionna aussi l'autre ligne, celle qui se trouvait le plus près de lui, et toujours dans l'obscurité, il rattacha les extrémités libres des filins de secours. Il travaillait très adroitement, d'une seule main. Tout en prenant soin de faire des nœuds solides, il maintenait les paquets de lignes avec son pied. Grâce à cette opération, il se trouva à la tête de 6 paquets de lignes de secours, à savoir 4 qui provenaient des 2 lignes principales qu'il avait sacrifiées et 2 de la ligne que son poisson avait prise. Ils étaient tous reliés ensemble. « Quand il fera jour, pensa-t-il, je tâcherai d'aller jusqu'à la ligne de 40 toises. Je la couperai et j'ajouterai les lignes de secours aux autres. J'aurai tout de même perdu 200 toises de bonnes cordelles, catalanes, sans compter les hameçons et les basses de ligne. Mais ça peut se remplacer. Qu'est-ce qui remplacera mon grand poisson si je me mets dans le cas de ferrer une bête quelconque qui viendrait se mettre à la traverse ? Qu'est-ce que ça pouvait bien être, ce poisson qui a mordu tout à l'heure? Un marlin? Un gros bec? Un requin? Il n'a pas eu le temps de tirer. J'ai été obligé de m'en débarrasser trop vite. Il dit tout haut, « Je voudrais bien que le gosse soit là. » Mais voilà, il n'est pas là, pensa-t-il. Il n'y a que ta vieille peau, et tu ferais même bougrement bien d'arriver jusqu'à la dernière ligne, qu'il fasse noir ou pas, pour la couper et ajouter les 2 lignes de secours aux autres. Et il réussit cela encore. C'était difficile dans l'obscurité. Tandis qu'il y travaillait, le poisson fit une embardée qui précipita le vieux la tête la première. Il se fendit la joue au-dessous de l'œil. Une rigole de sang descendit sur sa pommette, mais se coagula et sécha avant d'arriver jusqu'au menton. Le vieux retourna à l'avant et s'appuya contre le plat-bord. Il arrangea le sac du mieux qu'il put et, avec grand soin, déplaça la ligne de façon qu'elle coupa une autre partie de son échine. Ses épaules lui servant de cabestan, il arriva à évaluer avec exactitude la force du poisson. Il pouvait aussi laisser pendre sa main dans l'eau, ce qui lui donnait une idée de la vitesse de la barque. « Je me demande pourquoi qu'il a fait ce bond-là, » pensa-t-il. « Le fil métallique a dû glisser sur cette montagne qui lui sert de dos. » Pourtant, son dos lui faisait pas plus mal que le mien. « Serait-il grand comme une maison ? Il peut tout de même pas tirer cette barque jusqu'à l'année prochaine. » À présent, je me suis débarrassée de tout ce qui pourrait me gêner. J'ai une bonne longueur de fil en réserve. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Poisson, dit-il doucement à voix haute. Poisson, je resterai avec toi jusqu'à ce que je sois mort. Lui aussi, il restera avec moi, probable, pensa-t-il. Il attendit que le jour parût. C'était l'aube. Il faisait froid. Le vieux se rencogna contre le bois pour avoir un peu de chaleur. « Je tiendrai bien aussi longtemps que lui, » pensa-t-il. Au jour naissant, il vit sa ligne qui s'allongeait obliquement vers le fond de l'eau. Le bateau voguait toujours. Le premier rayon de soleil accrocha l'épaule gauche du vieux. « Il a mis le cap au nord, » dit le vieux. « Le courant nous aura poussé loin à l'est, » pensa-t-il. Si seulement il pouvait faire un tête-à-queue dans le sens du courant, ça voudrait dire qu'il commence à se fatiguer. Le soleil monta dans le ciel. Le poisson ne donnait aucun signe de fatigue. Une seule chose consolante, l'inclinaison de la ligne qui indiquait que le poisson nageait à une moins grande profondeur. Cela ne signifiait pas nécessairement qu'il sauterait, mais le laissait prévoir. « Mon Dieu, faites qu'il saute, » dit le vieux. « J'ai assez de lignes pour m'en arranger. » « Des fois que je tende un peu plus, » pensa-t-il, « juste assez pour lui faire du mal. » Ça le ferait peut-être sauter. « Maintenant qu'il fait jour, mon Dieu, faites qu'il saute. Comme ça, il remplira d'air les sacs qu'il a sous le dos au lieu de s'en aller crever au fond de la flotte. » Il essaya d'augmenter la tension de la ligne, mais celle-ci, depuis qu'il avait ferré le poisson, était tendue à se rompre. Quand il se pencha en arrière pour tirer, il éprouva une telle résistance qu'il comprit qu'il était impossible d'obtenir davantage. « Pas de secousse, surtout, » pensa-t-il. « À chaque secousse, l'hameçon y arrache la gueule un peu plus. » Et il risque de l'envoyer promener au moment où il sautera. Tout de même, depuis qu'il y a du soleil, ça va mieux. Pour une fois, j'ai la veine de ne pas l'avoir dans l'œil. Des herbes jaunes s'étaient accrochées à la ligne, mais le vieux savait que c'était autant de poids supplémentaire que le poisson avait à remorquer, et il en était ravi. C'était cette herbe jaune du Gulf Stream qui avait produit tant de phosphorescence au cours de la nuit. « Poisson, dit-il, je t'aime bien. » Et je te respecte beaucoup. Mais j'aurai ta peau avant la fin de la journée, que je dis, pensa-t-il. Un oiseau de petite taille venant du nord se dirigea vers la barque. C'était une sorte de fauvette qui volait très bas. Le vieux se rendit compte que la pauvrette était à bout de force. L'oiseau s'abattit à l'arrière de la barque. Après quelques repos, il se mit à volter autour de la tête du vieux, puis se posa sur la ligne où il se sentait plus à l'aise. « Quel âge que t'as ?» demanda le vieil homme à l'oiseau. « C'est-y ta première traversée ?» Pendant qu'il parlait, l'oiseau le regardait. Il était si las, le petit oiseau, qu'il ne prit même pas la peine de tâter son perchoir. Au moment où ses pattes minces s'agrippèrent au fil, il tituba. « C'est du solide, lui dit le vieux, trop solide même, que je dirais. Tu devrais pas être fatigué comme ça après une nuit de rien du tout, sans vent. Alors, quoi, y a plus d'oiseaux ?»« Si. » « Il y a les éperviers, pensa-t-il, les éperviers qui vont au large pour les attendre. » Mais il ne parla pas des éperviers à la fauvette. Celle-ci, de toute façon, ne l'aurait pas compris, et elle avait bien le temps d'entendre parler des éperviers. « Repose-toi un bon coup, mon petit, dit-il, et puis tâche de gagner la terre, tu as ta chance. Tout le monde a sa chance, les hommes, les oiseaux, les poissons. » Son dos était raide par suite du froid de la nuit. Il en souffrait terriblement, et cette petite conversation lui redonnait du cœur. « Reste chez moi si tu veux, petit oiseau, » dit-il. « Je voudrais bien pouvoir hisser la voile et te ramener à terre, dans cette bonne brise qui se lève. Mais j'ai du monde. » Comme il discourait de la sorte, le poisson fit une brusque embardée qui précipita le vieil homme à plat ventre sur l'appontement et l'aurait emporté par-dessus bord s'il ne s'était cramponné et n'avait donné un peu de ligne. La secousse avait fait envoler l'oiseau. Le vieux ne l'avait même pas vu partir. Il palpa la ligne soigneusement et s'aperçut que sa main droite était tout ensanglantée. « Ça veut dire que quelque chose l'a blessé, » dit-il. Il tira sur la ligne pour voir s'il ne pouvait pas faire tourner le poisson, mais dès qu'il eut atteint l'extrême limite de la tension, il n'insista pas et s'arc-bouta pour résister à la violence de la propulsion. « Tu commences à en avoir ta claque, poisson, » dit-il. « Et moi alors, bon sang, qu'est-ce que je dirais ?» Du regard, il chercha l'oiseau. Il aimait bien sa société. Mais l'oiseau était parti. « T'es pas resté bien longtemps, » pensa l'homme. « Tu as eu tort, parce que d'ici à la côte, c'est le plus dur. Comment que j'ai fait mon compte pour me laisser esquinter la main comme ça ?»« Parole, alors je deviens idiot. » Ou alors, c'est que je regardais ce petit oiseau et que je pensais à lui. « À partir de maintenant, je penserai plus qu'à mon travail. Et puis, il faudra que je mange le thon pour pas tomber en faiblesse. » Si seulement le gosse était là, et si seulement j'avais un peu de sel, dit-il tout haut. Il transféra le poids de la ligne sur son épaule gauche et s'agenouilla avec mille précautions. Il se lava la main dans l'océan et la tint sous l'eau pendant une bonne minute. D'après le glissement de l'eau contre sa peau, le vieux supputa la vitesse de la barque. Sa main soulevait un petit sillage sanglant. « Il va bougrement moins vite, dit-il. » Il aurait bien aimé laisser sa main tremper plus longtemps, mais il craignait que le poisson ne fît un nouveau soubresaut. Il se releva donc et, tout en s'efforçant de garder l'équilibre, tint sa main tournée vers le soleil. Ce n'était qu'une frottée de lignes qui avait arraché la chair. Toutefois, l'entaille affectait la partie la plus utile de la main. Le vieux savait qu'il aurait largement besoin de ses deux mains jusqu'à ce que tout cela fût fini. Une main endommagée avant même d'avoir commencé, c'était embêtant. « Allons, » dit-il quand la main fut sèche, « faut que je mange le petit thon. Je peux l'atteindre avec la gaffe et le manger ici, tranquille. » Il se mit à genoux et ses dents de la gaffe atteignirent le thon sous la poupe. Il l'amena jusqu'à lui en prenant bien soin de ne pas bousculer les paquets de lignes, faisant passer de nouveau la ligne sur son épaule gauche. S'appuyant sur son bras et sa main libre, il dégagea le thon du crochet et rangea la gaffe dans son coin. Ensuite, il posa un genou sur l'animal et se mit en devoir de le découper de la tête à la queue dans le sens de la longueur. Ces tranches de chair rouge sombre qu'il levait avaient une forme de fuseau. Elles allaient de l'arête dorsale jusqu'au bord du ventre. Le vieux en découpa de la sorte 6, qu'il étala sur le plat bord de l'avant. Il essuya ensuite son couteau sur son pantalon, puis soulevant l'arête du bonito par la queue, il la jeta à la mer. « Je pourrai jamais en manger une entière, » dit-il, en plantant son couteau dans l'une des tranches. Le grand poisson tirait sans faiblir sur la ligne et le vieux avait des crampes dans la main gauche. Il considéra cette main crispée sur la corde épaisse d'un air dégoûté. « Je te fais mes compliments, » dit-il à la main. « Offre-toi des crampes, vas-y. » « Non, mais regardez-moi ça, on dirait-il pas une patte de crabe ?»« Allez, mon vieux, » ajouta-t-il en regardant l'eau sombre, pour voir comment la ligne s'y enfonçait. « Faut le manger, ce thon-là, ça te décrispera la main. »« C'est pas sa faute, à la main, et ça fait un bout de temps que le poisson me trimballe. »« Il peut me trimballer comme ça, indéfiniment. »« Mange ton bonito et grue-toi. » Il piqua un morceau de thon, le porta à la bouche et le mastiqua lentement. Ce n'était pas mauvais. « Mâche bien, » pensait-il, « tire-en tout le jus. C'est certain qu'avec un peu de sel et du citron, ça aurait meilleur goût. » « Et comment que ça va-t-il, toi, la main ?» demanda-t-il à la main douloureuse qui était presque aussi raide que celle d'un mort. « J'en mangerai un peu plus exprès pour toi de ce bonito. » Il mangea l'autre moitié du morceau, il mastiqua consciencieusement, puis cracha la peau. « Comment tu vas, la main ? Ou alors c'est-il encore trop tôt pour savoir ?» Il prit une autre tranche. « Le bonito, c'est un poisson solide et qui a du sang, pensa-t-il. J'ai eu de la veine d'attraper ça au lieu d'une dorade. La dorade, c'est trop sucré. Celui-là, il est à peine sucré. Il a beau être mort, on dirait qu'il a gardé toute sa force. » « Il n'y a qu'une chose qui compte par le fait, c'est que je mange, » pensa-t-il. « Si seulement j'avais un peu de sel. Et le soleil, ça va-t-il sécher ou pourrir les morceaux qui restent ? On ne sait jamais. J'ai plus faim, mais je ferai mieux de tout manger. La bête, là en bas pour le moment, elle dit rien. Je vais tout manger, comme ça je serai paré. Courage, main, dit-il, c'est pour toi que je mange. J'aimerais bien lui donner à manger au poisson. » pensa-t-il, à mon frère, le poisson. Mais faut que je le tue et que je garde mes forces pour ça. Lentement et consciencieusement, il mangea toutes les tranches en forme de fuseau. Il se redressa et s'essuya les mains à son pantalon. « À présent, dit-il, tu peux lâcher la corde, main. Je vais me débrouiller avec la grosse bête rien que de la main droite, jusqu'à ce que t'aies fini de faire l'imbécile. » Il posa son pied sur la lourde ligne qu'avait tenue la main gauche et fit levier de tout son corps pour alléger le poids qui lui sciait le dos. « Mon Dieu, faites que cette crampe foute le camp, » dit-il. « Vous comprenez, je ne sais pas ce qu'il va faire, ce grand poisson-là, maintenant. » « Pourtant, il a l'air tranquille, » pensa-t-il. « Il suit sa petite idée. » « Mais qu'est-ce que c'est, son idée ? Et mon idée à moi, qu'est-ce que c'est ? C'est d'inventer quelque chose d'après son idée à lui, parce que c'est lui qui commande, grand comme il est. » S'il se décide à sauter, j'ai une chance de l'estourbir. Mais voilà, il ne veut pas quitter le fond. Alors faut que je reste avec lui, dans le fond. Il frotta sa main crispée contre le pantalon et tenta de remuer les doigts. Mais la main resta fermée. Peut-être qu'elle s'ouvrira au soleil, pensa-t-il. Peut-être qu'elle s'ouvrira quand j'aurai digéré le petit bonito tout cru. Bah, si jamais j'en ai besoin, je saurai bien l'ouvrir quand même. Mais tout de suite, il ne faut pas l'ouvrir de force. Elle s'ouvrira toute seule. Elle se remettra en marche quand elle voudra. Elle en a vu de rude, malgré tout, cette nuit, quand il a fallu détortiller toutes ses lignes et puis les nouer. Il embrassa la mère d'un regard et se rendit compte de l'infinie solitude où il se trouvait. Toutefois, il continuait à percevoir des prismes dans les profondeurs ténébreuses. La ligne s'étirait à la proue, d'étranges ondulations parcouraient le calme. Les nuages se portaient à la rencontre des alizés. En avant de la barque, un vol de canards sauvages se découpait contre le ciel. Il disparut, puis reparut, et le vieux sut que nul n'est jamais complètement seul en mer. Il se souvint de l'angoisse qui s'empare dans leur petite barque de certains pêcheurs, à l'idée de perdre la terre de vue. Il n'avait pas tort, car il y a des saisons où le gros temps fond sur vous sans crier gare. Mais on avait passé ces saisons-là. On était à présent dans la saison des ouragans. Quand il n'y a pas d'ouragan en train, c'est le plus beau temps de l'année. Un ouragan, cela se flaire de loin. Si l'on est en mer, on peut en observer les signes dans le ciel plusieurs jours à l'avance. Les gens de la terre ne comprennent rien au ciel, pensait le vieux. Ils ne le regardent pas comme il faut. Sans compter que les nuages, ça n'a pas la même forme vue de la terre ferme. En tout cas, il n'y a pas d'ouragan en route pour le quart d'heure. Il considéra le firmament où de blancs cumulus, pareils à de savoureux et gigantesques gâteaux à la crème, s'étageaient. Plus haut, les fines plumes des cirrus caressaient le ciel de septembre. « Légère brisa, dit-il, ce temps-là est meilleur pour moi que pour toi, poisson. » Sa main gauche était toujours nouée, mais il gagnait peu à peu sur l'engourdissement. « Bon sang, j'ai pas les crampes, pensa-t-il, c'est un sale tour qu'elle vous joue, là, votre carcasse. » Bien entendu, quand on se flanque une indigestion, c'est embêtant d'avoir la diarrhée devant les camarades ou de vomir. Mais alors là, une crampe. Pour lui, une crampe était une espèce de calambre. C'est encore plus humiliant quand personne ne vous voit. Si le gosse était là, il pourrait me frictionner la main. Il me plierait le poignet, pensait-il. Bah, ça finira bien par se remettre en place. Tout à coup, avant même de voir l'inclinaison de la corde se modifier, il sentit quelque chose de nouveau dans la tension de la ligne. Pesant de toutes ses forces sur le fil, le vieux se donnait de la main gauche de grands coups contre la cuisse. La ligne, lentement, arrivait. « Le voilà qui monte, dit-il. Allez, main, allez, crénom !» Lentement, régulièrement, la ligne montait. Soudain, l'océan se souleva en avant de la barque et le poisson apparut. Il n'en finissait pas de sortir. L'eau ruisselait le long de ses flancs. Il étincelait dans la lumière. Sa tête et son dos étaient violet foncé. Le soleil éclairait en plein ses larges rayures lilas. Il avait un nez très long, aussi long qu'une batte de baseball, et pointu comme une épée. Le poisson émergea tout entier, puis, avec l'aisance d'un bon nageur, replongea. Le vieux eut le temps d'apercevoir la grande queue en forme de faux qui s'enfonçait tandis que la ligne recommençait à galoper. « Il a deux pieds de plus que la barque, » dit le vieux. La ligne filait à toute vitesse, mais sans heurts. Le poisson ne s'affolait pas. Avec ses deux mains, le vieux s'efforçait de maintenir le fil juste à la limite du point de rupture. Il fallait tenir le poisson serré pour le contraindre à ralentir. À la moindre défaillance, il risquait d'emporter toute la ligne et de la casser. « C'est un gros, c'est un tout gros, » pensait-il. « Faut que je l'aie à la persuasion. Faut surtout pas qu'il ait l'idée de sa force ni de ce qu'il pourrait faire en se mettant à cavaler. Moi, si j'étais que de lui, j'en foutrais un grand coup tout de suite et je tirerais jusqu'à temps que ça pète. Dieu merci, ces bêtes-là, c'est pas aussi intelligent que les humains qui les tuent. Ça les empêche pas d'être meilleurs que les humains et plus malignes dans un sens. » Le vieux avait rencontré des quantités d'espadons dans sa vie. Certains pesaient jusqu'à 500 kilos. Lui-même, au cours de sa carrière, en avait pêché deux de ce poids. Toutefois, il n'était pas seul. Aujourd'hui, il laisse tout seul. Il a perdu la terre de vue et le voilà accroché à la plus grosse pièce qu'il ait jamais trouvée. Jamais il n'a même entendu parler d'une pièce comme cela. Et sa main gauche est aussi recroquevillée que les serres d'un aigle sur un lapin. Patience, elle finira bien par s'ouvrir, pensait-il. Sûrement qu'elle va s'ouvrir pour aider ma main droite. Il y a trois choses qui vont ensemble. le poisson et mes deux mains. Faut que cette crampe finisse. C'est pas honnête pour une main d'avoir une crampe pareille. » L'espadon avait ralenti encore une fois. Il était revenu à sa vitesse initiale. « Je me demande pourquoi qu'il a sauté, » pensa le vieux. « On dirait qu'il a sauté rien que pour montrer qu'il est grand. »« Bon, je le sais maintenant qu'il est grand. J'aimerais bien lui montrer à mon tour quelle espèce de bonhomme que je suis, moi. D'un autre côté, vaut mieux qu'il ne voie pas la main avec la crampe. Faut le laisser croire que je suis plus costaud que j'en ai l'air. C'est le bon truc pour l'être vraiment. Je voudrais que ça soit moi, le poisson, » pensa-t-il. « C'est à lui. » Qu'a tous les avantages. Moi, j'ai que ma volonté et ma cervelle. » Il se cala contre le bois du mieux qu'il put et prit son mal en patience. Le poisson allait toujours. Le bateau se déplaçait lentement sur l'eau sombre. Une légère houle se dessinait sous le vent qui s'élevait à l'est. À midi, la main gauche du vieil homme s'ouvrit. « Il y a du mauvais pour toi, poisson, » dit-il en déposant la ligne sur le sac qui couvrait ses épaules. Il était installé assez commodément, mais il avait mal, ce qu'il se refusait à admettre. « Je ne suis pas très fort pour ce qui est de la religion, » dit-il, « mais je dirais bien 10 notre Père et 10 je vous salue Marie pour attraper ce poisson-là. Si je l'attrape, je fais vœu d'aller en pèlerinage à la Vierge de Cobre, c'est dit. » Il se mit à défiler mécaniquement ses prières. Par moments, la fatigue envahissait sa mémoire, ce qui l'obligeait à réciter très vite, afin que la prière vînt automatiquement. « Les « Je vous salue Marie » sont plus faciles que les « Notre Père », pensa-t-il. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. » Puis il ajouta, « Vierge bénie, priez pour la mort de ce poisson. Quoi que ce soit un poisson, extraordinaire. » Ces prières dites, il se sentit beaucoup mieux. Cependant, ses souffrances étaient exactement les mêmes, peut-être un peu plus cruelles qu'avant. Il s'appuya contre le plat-bord et fit jouer machinalement les doigts de sa main gauche. Malgré la brise qui soufflait agréablement, le soleil était très chaud. « Je ferais bien de réappâter cette petite ligne qui est là-bas, à l'arrière, » dit-il. « Si le poisson a envie de se promener toute la nuit, faudra tout de même que je mange. » Sans compter qu'il ne reste pas beaucoup d'eau dans la bouteille. Ça m'étonnerait que j'attrape autre chose qu'une dorade par ici. Mais si je la mange bien fraîche, ça sera pas trop mauvais. Si seulement un poisson volant pouvait me tomber dans les pattes ce soir. Mais j'ai pas de lumière pour les attirer. Cru, le poisson volant, c'est épatant, et j'aurais pas besoin de le couper. À présent, faut pas que je gaspille mes forces. Jésus, j'aurais jamais pensé que ce poisson-là était si gros. Ça m'empêchera pas de le tuer, dit-il. Tout superbe et formidable qu'il soit. Faut bien dire que c'est pas juste, pensa-t-il. Mais je lui ferai voir tout ce qu'un homme peut faire et tout ce qu'un homme peut supporter. J'ai dit au gamin que j'étais un drôle de bonhomme, dit-il. C'est le moment ou jamais de le prouver. Qu'il l'eût déjà prouvé 1000 fois, cela ne signifiait rien. Il fallait le prouver encore. Chaque aventure était nouvelle. Dans l'action, le vieux ne pensait jamais au passé. « Je voudrais bien qu'il dorme. Je pourrais dormir aussi et rêver de lions, » pensa-t-il. « Pourquoi c'est-il les lions que je me rappelle surtout ?»« Te pose pas de questions, mon ami, » se dit-il à lui-même. « Repose-toi gentiment contre le plat-bord et pense à rien. Il travaille, lui, toi. Travaille le moins possible. » L'après-midi était déjà bien entamé. Le bateau continuait à voguer calmement, régulièrement. Maintenant, la brise de l'est ajoutait sa poussée au mouvement du bateau. Le vieux était porté doucement par la houle et la douleur que creusait la corde sur son dos suivait le rythme de cette longue et molle ondulation. La ligne remonta encore une fois au cours de l'après-midi, mais sans résultat. Le poisson nageait simplement à une profondeur moindre. Le vieux avait le soleil sur l'épaule, le bras gauche et le dos, d'où il conclut que l'espadon faisait route vers le nord-est. Depuis qu'il l'avait vu, il se le représentait avançant dans l'eau profonde, ses nageoires rouges sombres largement déployées comme des ailes, sa grande queue verticale coupant les ténèbres. « Je me demande s'il voit quelque chose à cette profondeur-là, » pensa le vieux. « C'est vrai qu'il a un œil énorme et qu'un cheval, avec un œil bien moins grand, voit dans le noir. Moi aussi, je voyais très bien dans le noir, autrefois. Pas dans le noir, noir bien sûr, mais presque aussi bien qu'un chat. L'action du soleil, jointe à l'exercice qu'il n'avait cessé de donner à ses doigts, avait complètement détendu sa main gauche. Cela lui permit de confier à cette main davantage de travail. Il faisait jouer les muscles de son dos pour déplacer un peu l'appui meurtrier de la corde. « Si t'es pas fatigué, poisson, dit-il tout haut, c'est que t'es un drôle de client. » Lui-même commençait à se sentir épuisé. Il savait que la nuit allait tomber bientôt, et il essayait de penser à autre chose. Il pensait aux grandes associations de baseball, qu'il appelait naturellement les Grandes Ligas. Il pensait aux matchs qui avaient mis aux prises les Yankees de New York et les Tigres de Détroit. « 2 jours que ça dure, pensa-t-il. Je connais pas les résultats des Fuegos. Mais faut avoir confiance. Je serai à la hauteur du grand DiMaggio, qui sait tout faire épatamment. Malgré son talent qui lui doit tellement de mal avec son bec de bécasse. Qu'est-ce que c'est au juste, un bec de bécasse ? Se demanda-t-il. Un espuela de hueso. Nous autres pêcheurs, on n'a pas de choses pareilles. Ça ferait-il des fois aussi mal qu'un ergot de coq de combat qui vous serait entré dans le talon ? Moi, je pourrais jamais supporter ça. Si on me crevait un œil ou les deux yeux, je pourrais pas continuer à me battre comme les coqs de combat. L'homme, c'est pas grand-chose, à côté des grands oiseaux et des bêtes. Et pourtant, ce que j'aimerais le mieux être, moi, c'est encore cette bête qui tire, là, en ce moment, dans le fond de ce tonneau noir. Sauf si le requin s'amène, ajouta-t-il tout haut. Si les requins s'amènent, que Dieu ait pitié de lui et de moi. Le grand DiMaggio, savoir s'il se cramponnerait à un poisson aussi longtemps que moi, pensa-t-il, il n'y a pas d'erreur. Plus longtemps même, il se cramponnerait, vu qu'il est jeune et costaud. Faut pas oublier non plus que son père, il était pêcheur. Mais son talon, ça le ferait-il pas trop souffrir ? Je ne sais pas, dit-il tout haut, j'ai jamais eu de bec de bécasse, moi.
On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4 de Le vieil homme et la mère.